Bonjour François Calfon.
Bonjour.
Le dernier débat de la primaire, le dernier débat d'avant le scrutin aura lieu ce soir. Bien malin, qui pourrait dire aujourd'hui qui seront les deux finalistes dimanche soir. Est-ce que tout va se jouer ce soir au cours de ce dernier débat?
Tout ne se joue pas au dernier débat. Par contre, c'est un moment de clarification et j'espère de vérité. Moi, ce que je peux vous dire, je lis pas dans le marc de café, c'est que il n'est pas à exclure une grosse surprise dimanche prochain. De ce que je vois des dynamiques de campagne, celui qui est en chute libre depuis qu'il est rentré dans cette campagne, c'est assurément Manuel Valls, dont on voit que cet épisode, je ne saurais pas l'interpréter de la gifle, mais surtout de la condamnation à 3 mois de prison avec sursis de la personne qui a commis cette violente, quoi qu'on en pense, d'une certaine manière ne place pas Manuel Valls en position favorable. Pourquoi pas un second tour entre Benoît Hamon et Arnaud Montebourg? C'est possible, en tout cas. Et ce que je sais, c'est que Arnaud Montebourg, qui rencontre finalement un accueil très favorable des Français,
ouais, puisque il y a des sondages en effet qui sont notamment celui du classement des personnalités politiques préférées. Il est en tête à 2 jours du scrutin.
Ça tombe du ciel. Ça tombe du ciel. Non, ça tombe de 8 mois et demi, 9 mois de campagne, une constance totale. En 2011, il avait prophétisé, si j'ose dire, la démondialisation qu'on appelle maintenant le Made in France. Et vous voyez que partout, les grands ensembles économiques intégrés, puisque nous sommes sur RFI, je pense notamment à l'Union européenne, il y a des pays qui font sécession et pour qui ça se passe pas si mal, ce que je ne souhaite pas, mais je le constate. Il y a un empire, les États-Unis, pour ne pas le nommer, qui finalement étaient les chantres de cette concurrence libre et non faussée, avec le traité de libre-échange de l'Atlantique Nord, qui maintenant relocalise l'emploi. Il y a partout ce mouvement. Et la relocalisation de l'emploi, les circuits courts que prône Arnaud Montebourg, c'est maintenant un véritable mouvement de société. C'est ce qu'on appelle le Made in France, où les gens, avec leur carte bleue, finalement, protègent les emplois, protègent les régions dans lesquelles ils vivent. Puisque souvent, derrière les marques, il y a quoi? Eh bien, une marque formidable, par exemple d'articles de sport. Il y a le travail des enfants, il y a l'asservissement des peuples.
Alors, vous avez évoqué l'affaire de la gifle qu'a reçue Manuel Valls en Bretagne avant-hier. Et vous êtes revenu sur la condamnation du jeune homme.
Oui.
3 mois de prison avec sursis. Il y a quelque chose qui cloche pour vous dans cette condamnation? Écoutez, il a été jugé selon procédure du plaidé coupable à la française.
Je n'ai pas commenté la décision de justice.
Oui. Mais
je vois simplement que il y a des gens qui pensent, et là de manière très large, pas simplement ceux qui se retrouveraient en conformité idéologique avec ce jeune homme qui était puni par la justice, cela me fait penser, il y a des gens qui pensent que, suivant qu'on soit puissant ou misérable, la justice ne s'applique pas peut-être avec la même célérité ou avec la même fermeté. Donc je n'ai pas à commenter ça, moi. Par définition, j'approuve les décisions de justice. Vous le voyez bien, la personnalité clivante de Manuel Valls suscite des réactions qui sont parfois disproportionnées. Et je le redis ici à votre antenne, je condamne évidemment
le
geste en lui-même.
Oui. Alors Manuel Valls donc est revenu sur cet épisode hier lors de son meeting. Je suis attaqué, a-t-il dit, parce que je peux gagner. Je ne mettrai jamais un genou à terre, parce que si je mets un genou à terre, c'est la gauche qui est battue.
Je vais vous dire, il y a une chose qui me dérange un tout petit peu avec Manuel Valls, que je connais bien, c'est à quel point il pense que la vie sociale, la vie politique est anguleuse, qu'elle est faite de conflits, de conflictualité. On a toujours un vocabulaire un peu guerrier, martial, alors que, au contraire, les Français demandent de la protection, du soin, de la prise en compte, de l'empathie, tout ce vocabulaire qui est absent du discours de Manuel Valls, ce qui pose quand même une difficulté majeure.
Alors Arnaud Montebourg a plusieurs marqueurs, le Made in France, vous l'avez dit, et la fin aussi de l'austérité, il emploie même le terme, fin de l'austérité aveugle. On pourrait peut-être dire que, par exemple, la Grèce a été victime de l'austérité aveugle, mais est-ce que vous diriez qu'en France, une austérité aveugle s'est abattue sur le pays?
Je dirais que dans l'ensemble des pays du monde, dans l'ensemble des finalement espaces économiques intégrés, on effectue des politiques de relance qui produisent des effets en finalement dopant la croissance, réduisant le chômage. Et nous avons encore cette espèce de règle d'or budgétaire stupide voulue par Madame Merkel, qui fait que la zone euro, qui a tout pour être une zone de dynamisme économique, de bien-être social, est une zone dans laquelle la croissance est flatte et le chômage est massif. Donc on peut tout à fait faire autrement. Et puis j'ai envie de dire autre chose à ce propos. Nous sommes face à des défis fantastiques. Nous avons eu un monde multipolaire et maintenant réapparaît un duopole russo-américain qui finalement veut écraser l'Europe, économiquement, politiquement. C'est le cas de ce que veut faire Monsieur Trump. Et nous avons encore à la direction de la Commission européenne, des institutions européennes, des comptables qui, à la loupe, regardent les déficits. Alors que le programme d'Arnaud Montebourg, c'est quoi? C'est de faire par un financement budgétaire, si j'ose dire, un plan d'investissement massif qui a été finalement chiffré par Monsieur Plan de l'OFCE, qui coûte 26 milliards par an, mais qui a des effets sur la croissance de 1 point à 2 points de croissance supplémentaires, voire 3 points de croissance sur l'ensemble du quinquennat, et qui génère la création de centaines de milliers d'emplois. Donc vous voyez bien, il y a aussi eu, pour répondre très directement à votre question, un programme d'austérité fiscale qui a vu, sous Monsieur Fillon, on l'a oublié, et Sarkozy, 32 milliards d'impôts supplémentaires pour les ménages et 30 milliards sous Monsieur Hollande. Je ne sais pas si c'est de l'austérité, mais en tout cas pour tous les retraités qui ont été taxés indûment, cela y ressemble fortement.
Alors vous parliez, François Calfon, d'Angela Merkel. Arnaud Montebourg, président, que dit-il à Angela Merkel?
Alors déjà, il dit... Parce que la vérité, c'est que Monsieur Hollande n'a rien fait, n'a même pas tenté de renégocier les traités. Il y a finalement dans le fonctionnement de nos institutions européennes la possibilité d'effectuer une minorité de blocage à 4 pays. Eh bien, nous avons avec la Grèce, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, la Belgique, j'en ai déjà cité 5, des pays qui refusent finalement l'espèce de traitement de cheval que Madame Merkel nous inflige avec pour conséquence l'austérité auprès des peuples. Que mettrons-nous à l'agenda? Nous mettrons à l'agenda, par exemple, la directive travailleurs détachés qu'il faut suspendre unilatéralement. Quelle est sa conséquence en France, cette directive travailleurs détachés? C'est 500 000 emplois. 500 000 emplois avec un véritable dumping social à domicile. On a importé les délocalisations en France avec ce système. Et 500 000, c'est la face émergée de l'iceberg, parce que derrière, ce travail détaché est finalement la locomotive du travail carrément illégal. Je donne un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Il faut pouvoir finalement orienter un certain nombre de fonds vers la croissance et l'emploi. Le fameux plan Juncker n'a pas été utilisé. Il faut investir dans l'ultra haut débit. Il faut investir dans les grandes infrastructures. Et il faut sans doute aussi mettre à l'agenda la question des hausses généralisées de salaires en Europe. Certains États de Californie l'ont fait. Monsieur Draghi, qui a fait une politique de quantitative easing, dit que maintenant il faut augmenter les salaires comme ça se fait ailleurs. Voilà des questions qui sont à l'agenda et qui sont susceptibles d'être résolues.
Un dernier mot rapidement, qui est le principal adversaire ou le principal concurrent d'Arnaud Montebourg dans cette primaire?
Vous savez, le concurrent, l'adversaire d'Arnaud Montebourg, ça n'est pas la finance. Il a dit lui-même le mur des puissants. Mais j'ai envie de dire ce matin que l'adversaire, ce serait le défaitisme. Ceux qui ont baissé les bras d'avance et qui pensent que la gauche ayant failli dans ce quinquennat, elle ne mérite pas soutien. Donc, au contraire, le meilleur supporter d'Arnaud Montebourg, qui est le candidat le plus populaire auprès des Français, c'est une participation massive le 22 janvier prochain, c'est-à-dire dimanche. Et vous pouvez retrouver, j'utilise la seconde qu'il me reste, vos bureaux de vote en allant sur le site de la primaire. Et en regardant que nous sommes prêts à vous accueillir pour voter.
Merci François Calfon, bonne journée.
Merci à vous.